France Musique. À Madame de Montespan, de Jean de La Fontaine. Le 18 juillet 1668, Louis XIV organise à Versailles un grand divertissement en l'honneur de Madame de Montespan. La rencontre entre le souverain âgé de 28 ans et la marquise de Montespan a lieu à l'automne 1666. Madame de Montespan, dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, est encore très prude. Et le roi, très épris de la maîtresse royale en titre, Mademoiselle de la Vallière. Arrivée à la cour grâce à la reine, cette femme, de son nom d'origine Françoise de Rochechouart de Mortemart, est d'une beauté éblouissante. Elle parvient peu à peu à attirer les regards et attise le cœur royal par ses saillies malicieuses. Avec le temps, le roi trouve bien des attraits à la belle Montespan, qui devient sa maîtresse en 1667. Mais elle est aussi redoutée des courtisans, de par son célèbre esprit de Mortemart, qui caractérise sa famille. Voltaire traduit cet esprit comme étant « un tour singulier de conversation mêlé de plaisanterie, de naïveté et de finesse ». Madame de Sévigné complète cette définition avec ces mots. À la plus surprenante beauté, elle joignait l'esprit le plus vif, le plus fin, le mieux cultivé, cet esprit héréditaire dans sa famille. La conversation et le sarcasme sont ses armes. Pour l'un, elle charme, pour l'autre, elle effraie. Elle cultive le beau et le mauvais temps en fonction des personnes qui se mettent sur son passage. Ambitieuse, rêvant de grandeur et aimant la fête, elle possède des qualités analogues au roi de France. Sa tournure d'esprit et sa beauté font d'elle un joyau que Louis XIV aime montrer. Fou amoureux de la marquise de Montespan, elle est comme son double féminin. Ils se correspondent et s'allient dans les mêmes batailles. Elle est sa favorite, la maîtresse royale et en vérité, la reine de Versailles. Passionnée par les arts et protégée par le roi, elle occupe un appartement proche du sien. La marquise de Montespan s'impose dans la vie du château. Son cercle devint le centre de la cour, des plaisirs, de la fortune, de l'espérance et de la terreur des ministres et des généraux de l'armée, note Saint-Simon dans ses mémoires. Avec un goût prononcé pour le luxe et les arts, elle couvre ses murs de peinture et fait de son appartement le centre de l'esprit de la cour du roi. Madame de Montespan est alors considérée comme la protectrice des arts, la royale déesse des arts et des lettres. Elle soutient les artistes, tels Racine, à qui elle suggère d'écrire l'histoire du roi avec Boileau, mais aussi Corneille et Molière, qui lui dédie l'école des femmes, ou encore La Fontaine, Quinault et le célèbre Jean-Baptiste Lully. Ce dernier résiste néanmoins à la déesse des arts lorsqu'il refuse le livret de Daphné que lui présente La Fontaine à la demande de la Montespan et de sa sœur, Madame de Thianges. À ce moment, être librettiste de Lully n'est pas rien. L'Académie royale de musique et de danse vient d'être fondée sous la férule du Florentin. Cet échec est l'occasion pour La Fontaine de rédiger une violente satire contre Lully dans un poème intitulé « Le Florentin ». En 1678, la marquise règne sur les amours royales depuis 10 ans. Écartée des affaires politiques et militaires, elle reste néanmoins très puissante et exerce une sorte de mécénat des arts et des lettres distinct du mécénat officiel. La Fontaine, comme beaucoup d'écrivains de son époque, n'entretient pas de très bons rapports avec le roi. Et Colbert lui a coupé les vivres depuis sa prise de position en faveur de Fouquet et sa critique récurrente de la cour dans ses fables. Le fabuliste souhaite que Madame de Montespan ait une bonne opinion de lui afin de bénéficier de ses faveurs. C'est alors qu'il lui dédie son second recueil de fables, le livre 7. Dans un avertissement, Jean de La Fontaine nous dit avoir changé de méthode. Il ne se contente plus de travailler sur le modèle d'Ésope, mais il élargit son inspiration à d'autres fabulistes comme Pilpay ou Locman, ainsi qu'à la sagesse orientale, la version arabe de Panchatantra. Jean de La Fontaine écrit dès lors, en ouverture de ce recueil, la fable à Madame de Montespan. Un discours direct dédicacé à la favorite des favorites du roi Louis XIV. « Inquiet des difficultés qu'il rencontre pour obtenir le privilège de ses nouvelles fables, La Fontaine essaie de se concilier le pouvoir royal. L'auteur s'adresse alors directement à Madame de Montespan en utilisant le pronom personnel « je ». Quant aux interjections « o » et « e », si propres aux fabulistes pour alerter, interpeller le lecteur, elles s'adressent à la destinataire de ses vers. Jean de La Fontaine n'a qu'un seul désir, se faire aimer de la favorite, attirer son regard et sa protection. Aussi fait-il usage de la flatterie, à commencer par celui de son égo. Dans le troisième mouvement de la fable, du vers 11 à la fin de la dédicace, il fait l'éloge de la marquise, tantôt nommée Olympe, tantôt Muse. Il compare les charmes de la fable aux charmes de la marquise. N'hésite pas à faire référence au cœur et aux esprits, en mettant en relief la double séduction opérée qui rappelle l'ambition esthétique de plaire et d'instruire dans ses fables. Madame de Montespan constitue ainsi l'allégorie de cette ambition poétique. Olympe, c'est assez qu'à mon dernier ouvrage, votre nom serve un jour de rempart et d'abri. Protégez désormais le livre favori par qui j'ose espérer une seconde vie. L'apostrophe à Olympe, répétée dans la dédicace, tisse un dialogue avec sa lectrice et adresse ses prières à celle qui a le pouvoir de soutenir et protéger les artistes. Votre appui, votre suffrage, invoque-t-il. Le fabuliste rend alors hommage à la beauté de la marquise, mais aussi à son rôle stratégique auprès du roi. Qui connaît mieux que vous les beautés et les grâces ? En usant des termes comme celui de rempart ou encore d'abri, La Fontaine demande explicitement la protection de la marquise dans sa fable dédicace. C'est enfin par la répétition du mot « temple » à la fin de son discours que l'auteur montre toute son ambition à élever un temple en l'honneur de la beauté de ses nouvelles fables, élever un temple à sa protectrice, mécène et muse, enfin élever un temple à l'auteur de ce recueil. Pauvre La Fontaine, ses flatteries étaient donc nécessaires pour parvenir à voir son talent reconnu à la cour. Trop inquiet de nature et trop peu sûr de la valeur des genres qui faisaient son succès dans le monde pour avoir le courage de s'en passer. Mais le temps de la disgrâce vient pour Madame de Montespan. La Fontaine, poussée par la marquise qui désire contrecarrer l'influence grandissante de Madame Scarron, loue la belle Fontange, nouvelle toquette du roi. La chute de l'une et l'autre lui ferment définitivement l'accès au monarque qui, sans faire obstacle à sa carrière, exprime sa réserve vis-à-vis du poète par un silence hautain et des hésitations diplomatiques. Le roi retarde alors l'élection de La Fontaine à l'Académie française. Pas plus que la faveur de Madame de Montespan, l'estime de La Fontaine par ses pairs n'a pu incliner Louis XIV vers le fabuliste. Protégé néanmoins par le dauphin, notre courtisan satellite est reçu dans les plus grandes maisons, au Luxembourg, à Chantilly. Mais reste un courtisan malheureux qui ne sera jamais reçu à Versailles.
À réécouter sur francemusique.fr.